Donc, Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu, c'est le titre d'un livre très connu de Billy Graham. La paix avec Dieu, c'est de savoir qu'on n'est plus sous la colère de Dieu. Et en fait, il y a beaucoup de gens de nos contemporains, chrétiens ou non, qui n'ont pas la conscience de la colère de Dieu directement. Voyez, il n'y a pas cette crainte de Dieu nécessairement, mais profondément en nous, dans le cœur humain tout au fond, on sait si on a la paix ou si on n'a pas la paix avec Dieu. Voyez. Et cette affaire d'avoir la paix avec Dieu ou de ne pas avoir la paix avec Dieu, c'est en rapport avec la colère de Dieu. Rappelez-vous que l'Épître aux Romains commence, dans le développement des thèmes, par Romains 1, 18, où il est dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu. Vous voyez? Et il va être reparlé de la colère de Dieu dans ce chapitre 5, mais ici il est dit: nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire: on n'est plus sous la colère. Et Paul va développer ça, il va nous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que profondément, dans notre expérience de la justice par la foi, tout à coup, on a su qu'on était pardonné et qu'on n'était plus sous la colère, et on a reçu cette paix qui est indescriptible, qui est constante, et au point même que on ne s'aperçoit qu'on l'a que si Dieu nous la retire. Vous voyez, je veux dire. Hein? C'est quand on vous enlève quelque chose que vous vous rendez compte que vous l'aviez. On s'est habitué, en tant que chrétien, on a la paix avec Dieu, on pense que c'est normal. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ceux qui n'ont pas la paix avec Dieu, donc qui ne sont pas passés par cette justification par la foi, cette nouvelle naissance, cette conversion, si vous voulez, là je prends un peu tous les termes en vrac, je ne rentre pas dans les détails, mais ceux qui n'ont pas reçu le pardon de leur péché, l'assurance du salut, eh bien, profondément en eux, comment dire, une instabilité ou une insécurité profonde par rapport à l'éternité, par rapport à la mort. Qu'est-ce qu'il y aura après la mort? Est-ce que je suis sauvé? C'est Moussa Koné qui raconte dans son témoignage comment il est venu au Seigneur. Et c'est un missionnaire américain qui avait appris l'arabe, qui était vraiment... qui était devenu son ami, à qui il parlait beaucoup, mais la phrase qui l'a percuté et qui a travaillé son cœur pendant au moins 2 ans, c'était: mais est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Et lui, il avait posé cette question à son père, bien des années avant. Mais papa, son père qui était imam, comment est-ce que je peux savoir si je suis sauvé? Il faisait toutes les œuvres de l'islam, si vous voulez, pour être sauvé, d'accord? Et toutes les prières, cinq fois par jour et tout le bazar. Mais il n'avait pas l'assurance. Et son père lui a répondu: on ne peut pas savoir. Vous voyez? Et ça, pour lui, c'était un dilemme énorme. Il n'avait pas la paix avec Dieu. Avec toutes les choses qu'il faisait, de l'islam qui était censé le rapprocher de Dieu, il n'avait pas la paix avec Dieu. Vous voyez? Est-on donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu? D'abord la justice, ensuite la paix. Vous n'avez pas la paix s'il n'y a pas la justice. Vous savez, dans Hébreux 12, il est parlé de la correction de Dieu. Hein? Il est dit que la correction produit finalement un fruit paisible de justice. Quand vous avez la correction, c'est-à-dire qu'on rétablit les choses sont redressées, ça fait mal, d'accord? On reçoit un blâme, la fessée, la tape sur les doigts, etc. Enfin, ok. Mais après, qu'est-ce qu'on se sent bien? Vous savez, l'enfant, d'accord, qui fait les 400 coups, enfin les 400 coups, j'exagère, mais le petit qui fait ses bêtises, et puis la maman lui donne une tape, puis se met à pleurer, et après, il est serré contre sa mère, il est paisible. Pourquoi? Parce que ça produit un fruit paisible de justice. C'est la justice qui produit la paix. Il n'y a pas de paix sans justice, en d'autres termes. D'accord? Or, on l'a vu dans Romains chapitre 3, la justice a été faite pleinement parce que par sa mort, Jésus-Christ a pris sur lui notre punition. Vous voyez? Notre condamnation. Donc, il y a eu la justice. Pleinement. La colère de Dieu s'est déversée sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, Ésaïe 53, est tombé sur lui. Vous suivez? Donc on peut avoir la paix avec Dieu. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que c'est lui donc, qui a supporté ce châtiment. Verset 2, c'est à lui que nous devons d'avoir eu accès à cette grâce. Certains manuscrits rajoutent par la foi, mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Enfin, il n'y a pas de détail inimportant, mais je veux dire, par là, c'est pas, on n'a pas le temps de tout couvrir. Mais il est parlé d'un accès à la grâce de Dieu. Vous voyez? La grâce, c'est comme si vous voulez, une zone. Une zone dans laquelle on vit dans le pardon, dans la grâce de Dieu. On ne cherche pas à se venger nous-mêmes. C'est Dieu qui venge, qui nous venge, d'accord? Mais nous, on est dans la grâce. C'est une zone, la grâce, dans laquelle on entre, on a accès à cette grâce. Et la plus... Comment dire, l'erreur classique du chrétien, c'est de quitter cette zone de grâce pour dire « Seigneur, laisse-moi m'occuper maintenant de me venger tout seul, parce que celui-là, tu vas voir ce qu'il va entendre. » Non, reste dans la grâce. Tu as eu accès à cette grâce. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu prendre ta défense. On a accès à cette grâce, mais là, il parle plus de la grâce, si vous voulez, par rapport à nos propres péchés. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Si tu as accès à la grâce, c'est que tu as accès au pardon de toi-même. Parce que Dieu t'a pardonné. Tu peux te pardonner. Donc tu vis dans la grâce. C'est extraordinaire ça. Certains chrétiens vivent constamment dans la condamnation. Et oh, ce que j'ai remarqué dans mon expérience, c'est que c'est peut-être le pire des pièges d'une vie chrétienne, c'est l'esprit de l'accusateur, hein. L'accusateur des frères, qui vient vous accuser constamment, constamment, constamment. Ça, c'est un piège. On a accès à la grâce, ok? On reste dans cette zone du pardon et de la grâce. C'est pour ça qu'il est dit « dans laquelle nous demeurons fermes ». Parce qu'il y a la tentation d'oublier que tout est grâce. Et nous-mêmes de se dire, est-ce que j'ai assez bien fait? Est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez lu la Bible? Est-ce que je vais assez à l'église? Est-ce que je suis dans la bonne église? Est-ce que je lis la bonne traduction de la Bible? Est-ce que, enfin, vous voyez, puis, finalement, on a peur de tout. Enfin, est-ce que je dois me brosser les dents à 9h ou à 9h15? Grande question, vous voyez. Est-ce que Dieu va me condamner à cause de ça? Il y a des chrétiens qui vont tellement loin dans la condamnation, finalement, ils n'osent même plus se peigner, vous voyez, parce qu'ils ont peur de faire quelque chose de mal. Mais quand on est dans la grâce, bon, j'exagère, hein. C'est pathologique. Non, mais je veux dire par là que, à un moment donné, je caricature, mais à un moment donné, on est dans la grâce ou on n'est pas dans la grâce. Vous comprenez? Donc il faut vivre dans cette grâce et on sera beaucoup plus efficace. On est beaucoup plus efficace dans le travail de Dieu quand on part de la grâce que quand on part des œuvres, hein. Donc demeurer ferme dans la grâce, et nous nous glorifions. Alors en plus de demeurer ferme dans cette grâce, tout à coup, Paul parle maintenant d'une autre dimension, c'est la dimension du salut dans le temps. Nous nous glorifions dans l'espérance. Vous savez, quelque chose qu'on espère, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais on sait que ça va arriver. Alléluia. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? En fait, on a été sauvés par Jésus-Christ, nos péchés ont été pardonnés il y a 2000 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle le salut passé, dans le sens que c'est fait. On est en train d'être sauvés dans le sens qu'on apprend à marcher dans cette grâce, on est sanctifié par la grâce. Mais on sera sauvés au futur, dans le sens que lorsque Jésus-Christ reviendra nous chercher, soit parce qu'on meurt avant son retour, soit parce qu'il revient et qu'on sera enlevé directement, gloire à Dieu. Mais quand le Seigneur reviendra nous chercher, eh bien, on va revêtir le corps de résurrection. Et si vous voulez, ce qui était un salut intérieur pour nous, en espérance, sera pleinement acquis à ce moment-là. Vous suivez ? On a actuellement les arts de l'esprit, mais alors, nous verrons face à face, etc., etc. À la fin de 1 Corinthiens 13. Donc, on se glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu. Vous avez un texte qui revient là-dessus dans Romains chapitre 8, verset 23. « Bien plus, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. » Donc, nous avons été sauvés, mais néanmoins c'est en espérance. Non pas dans le sens qu'on dit « j'espère que je serai sauvé ». Oui, comme disent certains chrétiens. Non, je sais que j'ai été sauvé, j'ai été pardonné, mais j'espère la résurrection, j'espère l'achèvement de mon salut, le couronnement de mon salut, au moment où Jésus reviendra, et je ne veux pas avoir la honte d'être éloigné de lui à ce moment-là. Amen. Parce qu'à ce moment-là, je ne perdrai peut-être pas mon salut, mais je perdrai mes récompenses, ce serait terrible. Vous voyez ? J'aurais cru pour mon salut. Ensuite, j'aurais tout balancé en disant « ça ne marche pas, je ne comprends rien », etc. Et puis quand Jésus revient, il dit « oh mince, si seulement j'avais cru jusqu'au bout ». Vous voyez, je veux dire, je caricature, mais un petit peu de ça. Ça me rappelle, quand j'étais en Angleterre, j'étais jeune et j'étais là-bas pour apprendre l'anglais, et je n'avais pas le droit de travailler, mais parce que j'avais pas les, à l'époque, c'était avant que l'Angleterre rentre dans l'Union européenne. Et non, tout au moins, pardon. C'était avant que j'ai mes papiers français. J'avais que des papiers suisses. Donc, je ne pouvais pas bénéficier des accords européens pour travailler en Angleterre. J'ai donc pu faire un travail bénévole dans un centre d'accueil chrétien. Et dans ce travail bénévole, si vous voulez, on avait une sorte d'argent de poche, mais on faisait toutes sortes de tâches qui étaient parfois un peu ingrates. Et notamment un jour, le responsable nous avait collé à écailler de la peinture sur une sorte de pièces de métal, et il fallait presque y aller au burin pour enlever la peinture, vous voyez, je veux dire. Donc la brosse à faire, enfin, c'était pas extraordinaire. Et puis lui, il était vraiment à la fois le propriétaire et le directeur de tout le centre d'accueil, parce que c'était en fait quelqu'un de la noblesse d'Angleterre qui avait tout donné pour le Seigneur, mais qui gérait quand même ce centre. Et nous, on était à quelques gars en train de travailler, et puis à un moment donné, il y en a deux qui ont fait la pause, parce qu'on avait l'impression qu'on n'avançait pas, que ça ne servait pas à grand-chose. Et c'était vraiment le genre de travail qu'on vous donne, vous demandez à quoi ça sert. Et puis, il s'est trouvé, c'était plus par chance que parce que je suis meilleur que les autres, mais il s'est trouvé que moi, j'étais en train de travailler, et tout à coup, il est apparu au coin du chemin, et puis il y avait mes deux copains qui discutaient, ou qui... Enfin, voilà, quoi. Alors, tout de suite, il a fait une remarque, et oui, il y avait la honte de ne pas être en train de travailler au moment où le patron arrive. Vous savez ce que je veux dire ? On a tous vécu ça de manière ou d'une autre dans notre vie, hein, ces moments-là. Mais là, il ne s'agit pas juste d'une honte par rapport à un patron de faire la pause un peu trop longue. C'est la honte le jour où Jésus reviendra. Mais Paul dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Paul vit dans l'attente de la résurrection. Alléluia. Il a un feu qui brûle, qui ne s'éteint jamais. Ok, Le feu du premier amour s'est pas éteint dans le cœur de Paul. Verset 3, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Donc, il y a une série de choses ici. Il dit d'abord, il y a des épreuves, il y a des tribulations, des persécutions, qui font que on aurait tendance à se décourager. Vous voyez ? De toute façon, les tribulations, elles font partie de la vie chrétienne. C'est Paul qui dit, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc si vous, voilà, vraiment vous voulez suivre Jésus, être un témoin de votre foi là où vous êtes, vous allez recevoir des pavés, quoi. Hein, c'est inévitable. Ou des tomates. Ou des œufs. La fille de William Booth, qui est venue à Paris à l'âge de 19 ou 20 ans avec une de ses amies pour évangéliser à Paris, elles ont été envoyées par leur mission de Londres à Paris en 1900 à peu près. Et elles ont évangélisé pendant un an dans les rues de Paris. Et au bout de un an, il y avait 100 femmes qui s'étaient données au Seigneur, une centaine de conversions. Mais elles, tous les soirs, elles rentraient dans leur chambre en sang parce qu'on leur balançait des choses, on leur crachait dessus, etc. Tous les soirs. Mais elles ont persévéré. Vous voyez ? Jeune fille de 19 ans. Et leurs parents leur disaient tous les jours, le monde vous attend. Préparez-vous. Vous voyez ? Elles étaient préparées, elles étaient, comment dire, dans la prière, dans la piété, dans tout le sens du terme, dans le bon sens du terme, pour évangéliser le monde. Ils appelaient ça l'armée du salut. C'était l'armée du salut. C'était une armée à l'époque. Vous voyez ? Une armée dans le sens qu'ils allaient au front, ils savaient qu'il y aurait des coups, des combats, mais ils persévéraient. Et vous avez des chants de l'armée du salut, des cantiques qui existent encore. Qui donne des chants assez militaires comme ça, mais qui parle de l'étendard de la foi, de debout sainte cohorte, allez au combat, on y va jusqu'au bout, ou bien je dépose mon épée au pied du roi des rois, c'est quand je meurs, vous voyez, j'ai fini le combat. Enfin, il y avait tout un vocabulaire, mais c'était une armée, dans tout le sens du terme. Est-ce que l'Église aujourd'hui est une armée, ou bien est-ce que c'est une sorte de clinique, ou bien alors est-ce que c'est une sorte de supermarché ou de station d'essence où on va faire le plein, vous voyez. La tribulation, qu'est-ce qu'elle produit la tribulation? Elle produit la persévérance, vous voyez. Elle nous oblige à persévérer, à tenir ferme. Alors, mais c'est pas difficile. Avec Dieu, si tu rates l'examen, il te le fera repasser. D'accord? Jusqu'à ce que tu passes. Parce que Dieu est plus persévérant que toi. Ok ? Et qu'est-ce qu'elle produit la persévérance ? Elle produit... Alors, il y a différentes traductions. Dans la King James, la persévérance, elle produit, je crois, l'expérience. Quelqu'un qui a l'expérience. Il est passé par là, vous voyez, je veux dire. Ou bien elle produit la fidélité éprouvée. Ou bien elle produit, selon une autre traduction, j'ai vu ça tout à l'heure... La victoire, j'aime bien, c'était l'ancienne traduction, la victoire dans l'épreuve. On a passé le test, donc on est plus fort. Notre fidélité, elle est éprouvée. Vous voyez ? C'est comme, vous savez, autrefois, l'acier était trempé. Enfin, peut-être ça se fait toujours, j'en sais rien, mais on parlait d'acier trempé. Donc il était rougi, c'était du fer rouge, d'accord ? Et puis on le trempait brusquement dans l'eau, c'était un choc et ça le durcissait. Et donc, il paraît aussi que lorsque vous avez une fracture, eh bien, à l'endroit de la fracture, quand elle a été réparée, ressoudée, l'os est plus solide à cet endroit qu'à n'importe quel endroit. Il ne va pas se recasser là. Il est plus fort, plus solide. Intéressant, hein ? Donc, la tribulation produit cette résistance, ou cette, pour être très moderne, cette résilience. Ça fait bien, hein, le mot résilience. Mais la victoire dans l'épreuve. La persévérance, donc, produit cette victoire dans l'épreuve, cette fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, qu'est-ce qu'elle produit ? L'espérance. L'espérance biblique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez ? C'est quelque chose d'extraordinaire, l'espérance, parce que ça veut dire que je vois le but. Vous voyez ? Je me rappelle quand je disais... Bon, j'ai jamais été un... C'est pas dans le même sens que nous. Voilà, nous, c'est ben, j'espère bien, sous-entendu, j'y crois pas. Oui. Non, Je me rappelle quand, moi bon, j'ai pas été un grand sportif, mais quand j'étais à Paris, je faisais partie d'une association qui s'appelait Sport et Foi, qui existe toujours. Et puis l'idée, c'était de nous faire participer au cross du Figaro. Alors, j'avais pas du tout d'entraînement. Donc, il y avait 10 km à courir. Et puis moi, je crachais un peu mes poumons parce que j'étais pas du tout entraîné, mais j'ai fait le cross du Figaro. Et c'était, vous savez, 10 km quand vous n'avez pas l'entraînement, c'est un peu long. Et je me rappelle, je suis arrivé à peu près dans les. Il y avait 1000 coureurs, je suis arrivé dans les 500 premiers, je crois. Donc c'était pas. Oui, c'était pas une grande victoire. J'avais le t-shirt Sport et Foi. Et à un moment donné, on n'était pas très loin du but, mais on ne voyait pas. Et puis je ne connaissais pas le parcours, si vous voulez. Et donc il y a des gens qui ont dit, oh, je ne sais pas pourquoi il y avait des. C'était pour nous décourager ou quoi, mais oh, c'est encore très loin. Enfin, vous voyez, ils nous racontaient des histoires. Et j'étais vraiment fatigué, j'étais tenté d'arrêter ou de me mettre à marcher. Et puis, j'ai fait 10 mètres et tout à coup, j'ai vu la ligne d'arrivée. Je me dis, oh, quel menteur! Quelle bande de menteurs! J'étais juste pas loin du but. Et là, j'ai toute l'énergie est revenue et j'ai commencé à, vous voyez, j'ai jeté toutes mes dernières forces dans la bataille. Mais ça m'est resté parce que j'ai réalisé, voyez, la force de l'espérance. Quand vous voyez la ligne d'arrivée, c'est ça l'espérance. Et il y a une ligne d'arrivée pour chaque vie chrétienne. Alléluia. Et parfois, on a l'impression que c'est très très loin. Il y a tellement de virages qu'on ne la voit plus. Vous voyez? Mais on va y arriver. Hein. Et donc, ces épreuves, ces tribulations, cette victoire dans l'épreuve, ça produit la persévérance. Et cette persévérance, ça produit l'espérance. Vous suivez? Et après, vous êtes à côté d'autres chrétiens qui se découragent. Et vous avez passé par certaines étapes. Et puis ils sont là, ils se plaignent de leur sort, ils disent oui, c'est dur, on n'y arrive pas, etc. Et puis vous les regardez, et puis vous leur dites, persévère. Puis ils vous regardent, en disant, bien sûr qu'on sait qu'il faut persévérer, et puis, mais regarde, ça ne marche pas. Vous voyez? Ils n'arrivent pas à vous comprendre. Et vous n'arrivez pas à comprendre qu'ils persévèrent pas, qu'ils ne persévèrent pas. Parce que vous avez été éprouvés. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais peut-être que vous avez d'autres épreuves, vous, qui ne sont pas ces épreuves-là. Ou c'est vous qui avez envie de lâcher. Puis il y a quelqu'un qui est encore plus avancé dans l'expérience et qui vous regarde, qui vous dit persévère. Puis vous dites, oh, la route est longue. Vous comprenez? C'est une école, la persévérance. C'est une école. Persévérer à Marseille. Persévérer en France. Avec toutes les prophéties qu'on a sur le réveil qui vient en France. Vous voyez? Des fois, on a envie de dire à ces prophètes, rentrez dans votre pays, laissez-nous tranquilles avec vos promesses, parce qu'on ne voit rien arriver. Ou bien, il y a toujours l'impression que l'eau frémit, mais elle ne va jamais bouillir. Voyez. L'espérance, écoutez bien, verset 5, ne trompe pas. Alléluia. Pourquoi? Il y a encore quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand que l'espérance. Regardez. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Notez le pluriel dans nos cœurs, pas juste dans mon cœur à moi. Mais ensemble, on découvre, on redécouvre à quel point Dieu nous a aimés. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8, Paul dit, à la fin du chapitre 8, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Car j'ai l'assurance. Cette assurance de l'amour de Dieu, d'accord, qui est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc, le Saint-Esprit, le consolateur, c'est son titre, finalement. Pourquoi est-ce qu'il est appelé consolateur? Parce que Dieu sait qu'on marche dans un monde difficile, où il y a des épreuves, des tribulations. Et on a besoin de l'Esprit consolateur. Alléluia, avec nous. Et donc, Dieu nous a pas. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Régulièrement. On a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Amen. Les Actes chapitre 4, les 12 sont convoqués par Sanhédrin, ils sont battus, on leur interdit de prêcher l'Évangile, ils retournent vers leurs collègues, ils prient tous ensemble, Et puis, ils auraient pu dire, bon, bah écoutez, voilà, on a eu un réveil, très bien. Maintenant, il faut un peu se calmer. Il y a la persécution. On ne veut pas qu'on prêche l'évangile. Alors, on s'arrête. Ils auraient pu dire ça. Il y a beaucoup d'églises qui disent ça. Ah, là, attention, hein, faut pas exagérer non plus. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va prier. Psaume 2, psaume de combat. D'accord? Qu'est-ce qui se ligue contre l'Éternel et contre son moi? Ok, Dieu se rit de ses ennemis. Et puis ils prient ce psaume. Et puis ils sont remplis du Saint-Esprit. Le lieu dans lequel il y a un tremblement de terre, là où ils se trouvent. D'accord? Sans que le bâtiment s'écroule. Mais il y a quand même les murs qui tremblent. Et puis ils sortent, et puis de nouveau, ils prêchent l'évangile, il y a des miracles. Et ils sont de nouveau dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs, à la fois le consolateur, mais aussi l'esprit de témoignage, l'esprit d'audace, l'esprit de force, vous voyez, qui nous permet de ne pas rester sur l'épreuve, mais d'avoir la victoire dans l'épreuve, d'aller plus loin, et de se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 6. Car lorsque nous étions... Alors, il va nous expliquer maintenant cet amour de Dieu. Vous voyez ? Il ne va pas juste dire l'amour de Dieu comme ça. Il va dire, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que cet amour ? Vous voulez comprendre à quel point Dieu nous aime ? Vous voulez comprendre pourquoi cet amour qui est répandu dans nos cœurs, cette qualité, enfin, ce n'est pas le mot qualité qu'il faut dire, cet amour-là de Dieu, il est plus fort que la mort. Pourquoi? Regardez. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, donc pour des pécheurs, si vous préférez. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que, il faut bien voir ça dans la perspective. Il faut relire ces versets 1 à 11, comme un tout, vous voyez. Et en fait, ce que Paul nous dit ici, il nous dit, voyez, quand Christ est mort pour nous sur la croix, on est encore des pécheurs. Il a donné sa vie non pas pour des amis, mais pour des ennemis. On est ennemis de Dieu par nos pensées, dit un texte. Vous voyez ? Des gens qui vous disent « Ah, mais moi, depuis tout petit, depuis ma naissance, j'ai toujours aimé Dieu, blablabla. Bla, » bla. Mon œil. Qu'est-ce que t'en sais que t'as aimé Dieu ?
Il y en a qui m'ont même dit « Mais je suis pas pécheur, non. »
Oui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas pécheurs.
J'ai pas péché. Donc, je suis sans péché, qui m'ont dit.
Peut-être que t'as été élevé dans une atmosphère, ou peut-être t'avais une sensibilité particulière, etc. Je nie pas ça, vous voyez. Mais, profondément, quelque part, on est ennemi de Dieu. Ça ressort pas nécessairement tout le temps. Vous voyez, c'est pas tout le temps visible, mais c'est là. Nous étions impies, nous étions pécheurs. Et là, pour ces ennemis-là, eh bien, Jésus-Christ est mort, ce qui nous dit à quel point Dieu nous aime. Vous voyez, il nous aime au-delà de notre méchanceté et de notre pourriture. Il nous aime, parce qu'il nous a créés. Il est notre créateur. Alors il dit, si, en bref, si vous voulez, le raisonnement de Paul, c'est suivant. Il dit, si Dieu... Enfin, si Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, okay, maintenant par sa mort on a été réconciliés, donc on n'est plus des ennemis, on est des amis de Dieu. Alors si maintenant tu es un ami de Dieu, si quand tu étais un ennemi, Dieu t'a donné son fils, alors maintenant que tu es un ami, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Vous comprenez? C'est ça le raisonnement de Paul. Si Dieu n'a, Romains chapitre 8, parce qu'il va reprendre Romains 8, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, combien plus ne donnera-t-il pas toute chose avec lui? Et nous, on vit comme des mendiants dans un palais. Vous suivez? On est là, on n'ose même pas prendre la cuillère en argent, on mange avec les doigts en se disant « je vais la salir ». Il faut arrêter. Dieu nous aime, oui ou non? Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça que Paul est en train de nous dire « mais vous ne comprenez pas l'amour de Dieu ?» Regardez, verset 9. « À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» Car si, lorsque, vous savez, ça me fait penser à ce prédicateur qui disait qu'il était dans un avion, et puis il y avait une maman avec son fils qui était assis juste derrière les sièges des premières classes. Vous voyez ? Et puis l'enfant, il voit ces beaux sièges, vous savez, beaucoup plus larges, beaucoup plus... Enfin bon. Et puis il dit, « Oh, maman, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir sur ces sièges ?» Et il dit, « Non, ça, c'est pas pour nous. » Sous-entendu, nous, on n'a pas ce privilège, nous, on est des pauvres, nous, on ne peut pas, blablabla, etc. Et puis finalement, l'enfant, il va sauter sur les sièges parce que pour lui, oui, je veux dire. Alors elle le reprend sévèrement et dit, non, ça, je te dis que ce n'est pas pour nous. Vous voyez cette espèce d'éducation qu'on a. Mais Dieu est généreux, mes amis. Il peut vous donner une place en première classe, il n'y a pas de problème. Bon, je ne parle pas juste de la première classe pour la première classe. On s'en moque en soi, si vous voulez. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance à restreindre, à être étriqué dans notre vision de Dieu et de son amour. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Là, il parle de l'espérance d'avoir de Dieu. Il parle de l'adoption de notre corps, la résurrection de notre corps, Romains chapitre 8, si vous voulez. D'accord ? Et puis, on verra un peu plus loin dans le chapitre 5 qu'on peut régner avec lui dans la vie. Pas seulement dans l'éternité, mais déjà sur cette terre. On peut goûter comme à l'avance, tout en ayant des persécutions. Je précise. Ça ne veut pas dire que Dieu nous promet, qu'on est déjà au ciel. Non, on est toujours sur la terre, il y aura encore des persécutions. Mais on peut avoir comme des rayons de soleil de la gloire de Dieu sur notre chemin. J'étais en Normandie ce week-end, et là-bas, ils ont une sorte de dicton, ils disent, il y a du soleil entre deux averses. Vous voyez ? On peut avoir du soleil entre deux averses. Amen. Pourquoi ? Ça veut dire que Dieu nous montre à quel point il est généreux, à quel point il est grand. Et on vit des choses glorieuses, mais c'est de gloire en gloire, entre deux sommets de montagne et aussi des vallées. On sait qu'il y a encore des tribulations. Vous suivez ? On n'est pas, on va pas se dire, ah, tu as eu une tribulation, donc tu n'es pas dans la foi. Mais non, voyons, c'est ridicule ça. Par contre, il est dit ici, nous serons sauvés par sa vie. Donc plus encore, verset 11. Plus que juste avoir été réconciliés, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, puisque nous avons été réconciliés en quelque sorte, vous voyez. Enfin, je paraphrase le verset 11. Se glorifier en Dieu, c'est-à-dire, attention, c'est pas dire nous on est des chrétiens, enfin des sortes de chrétiens première classe, vous voyez, je veux dire. Hein, des chrétiens. Oui, voilà, nous on est des vrais, puis vous n'êtes pas des vrais chrétiens. C'est pas ça que ça veut dire. Mais on se glorifie en Dieu en disant je sais que mon Dieu est capable. Vous voyez ? C'est ce que Paul fait, par exemple, dans Philippiens chapitre 4, quand il parle aux Philippiens de l'offrande, ils étaient entrés en contact, ils soutenaient Paul en son ministère. Et puis il dit bon, vous avez bien fait part de prendre part à ma détresse, je sais être content dans l'abondance, quand j'ai rien, enfin, comme pour dire c'est pas grave. Tribulation, pas tribulation, abondance, pas abondance, on avance. Le cap, on le garde parce qu'on a l'espérance. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Donc il n'y a pas de souci. Mais il dit, mon Dieu, sous-entendu, moi je connais mon Dieu. Je sais ce qu'il est capable de faire. Il pourvoira à vos besoins. Comment ? Regardez avec moi dans Philippiens 4. Mm-hmm. Philippiens 4, 19.
Avec gloire.
Avec gloire. Vous voyez le mot gloire ici ? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse, est-ce qu'il est riche, Dieu ? Plutôt, hein ?
Très riche.
Avec gloire en Jésus-Christ. Avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Donc, on peut être étonné par la grâce, par l'abondance, par la gloire de Dieu, au moment où on s'y attend le moins, au moment où on a l'impression que tout, le ciel est fermé, vous voyez ? Mais Dieu, lui, il nous apprend à marcher donc par la foi, à faire ses expériences, la tribulation, ensuite la persévérance, la victoire dans l'épreuve, l'espérance, et puis l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, qui fait que, quelles que soient les circonstances, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ne pourront nous séparer de l'amour de Christ en Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important, si vous voulez, de vivre dans cette vie de victoire où, contrairement à ce que dit l'épître de Jude par rapport aux gens qui sont sans Christ ou bien à des chrétiens qui sont amers ou qui ne vivent pas cette victoire, il est dit que ce sont des gens qui se plaignent de leur sort. Et se plaindre de son sort, c'est une caractéristique du monde qui va en enfer, du monde des derniers temps. C'est une caractéristique des derniers temps. Dans les derniers temps, les gens se plaindront de leur sort. Voilà ce que dit la Bible. Et vous avez une sorte comment dire, de mentalité où, si vous voulez vous faire bien voir, il faut vous plaindre. Alors, c'était bien tes vacances? Oh là là, pff, là, je peux même pas te dire comme c'était affreux. Oh, mais tu peux pas savoir. Et puis, alors qu'il y a eu. Attendez, tu étais en vacances, non? Oh, mais il a plu tout le temps. Le train était en retard. L'hôtel était sale. Blablabla. Enfin, oui, il y a toujours. Et puis alors après, on se dit, oui, oh là là, mais quel martyr. Oh là là, qu'est-ce qu'on te plaint d'avoir été en vacances. Elle est belle ta maison? Oh là là, mais si tu savais le travail que ça me demande. Oui. Et on se plaint tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que on pourrait dire, oui, j'étais en vacances, c'était super. Oui, j'ai une maison, quel privilège. Viens manger à la maison. Oui, on se plaint tout le temps, tout le temps. C'est une mentalité. C'est un esprit, en fait. Comprenez? Il faut se défaire de cet esprit. Et puis, c'est quoi l'esprit contraire? L'esprit de Dieu, nous nous glorifions en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez des gens qui vivent des situations, mais catastrophiques, et ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. Sont tout en train de remercier le Seigneur, ils sont tout le temps contents. Vous voyez? Et vous allez voir certaines personnes qui sont à l'hôpital ou autre, et vous dites, waouh, qu'est-ce qui m'a remonté le moral, lui? Vous voyez? Ben, ce n'est pas des gens qui se plaignent de leur sort, c'est des gens qui sont heureux. Parce qu'ils savent, comme Paul, je peux être dans la disette, je peux être dans l'abondance, c'est égal. Ce qui compte, c'est que je suis avec le Seigneur. Le reste, c'est passager. Ça ne dure pas. C'est les choses éternelles qu'on vise. Amen. Et donc, c'est très important d'avoir cette mentalité de foi, ce langage de la foi, cette atmosphère de foi qui vous entoure. Vous suivez? Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait ce pasteur, j'ai eu le privilège de traduire un sénateur des États-Unis, pasteur d'une très grande église à Chicago, qui a le Gospel Choir de Chicago. Chicago Gospel Choir, une chorale extraordinaire. Il avait 70 choristes, qui est juste une dîme de leur chorale, je crois qu'ils sont, je ne sais pas combien de centaines de choristes, et puis ils ont, je ne sais pas, 10 ou 20 000 membres, enfin c'est une grande église. Et il était venu lui-même en personne avec sa chorale pour appuyer la campagne de Luis Palau à Marseille. Et puis la chorale avait été invitée à Istres. Quatre églises étaient mises ensemble dans une salle publique. Et puis je le traduisais parce qu'entre chaque chant, il faisait une toute petite intervention de 1 minute, vous voyez, quelques paroles de foi comme ça, mais. Le deal avec la mairie, c'était on ne prêche pas, mais on présente les chants. Dans la présentation des chants, il y avait une telle onction dans ce qu'il disait qu'en fait, l'évangile est passé quand même. Et puis déjà, c'était des chants gospel, alors vous imaginez. Et donc, ce qui m'a beaucoup marqué avec cet homme, c'était son niveau de foi. Parce que moi, j'étais là, j'avais peur, je voyais toute la situation. Il me disait, Jean-Hugues, t'es pas dans la foi. Vous voyez, je veux dire. Et c'était tellement communicatif, je n'arrive pas à vous le dire avec des mots. Mais d'être avec cet homme-là, ça a duré juste une soirée, vous voyez. Je ne me rappelle même pas de son nom. Mais c'est comme si vous étiez, votre foi est dynamisée, parce que c'est des gens qui ont un niveau de foi. C'est impressionnant. Les Américains sont beaucoup comme ça. D'accord? Parce que c'est un pays de pionniers et c'est un pays qui a été marqué par l'Évangile. Donc c'est aussi une mentalité générale. C'est rentré dans leur culture. Mais ça n'a pas toujours été leur culture. Parce que les Américains, au départ, ils habitaient en Europe, dans la vieille Europe, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous, on est dans la vieille Europe avec notre poids de négativisme. Mais, comme disait le pasteur qui m'a formé quand j'étais jeune, je suis arrivé dans son bureau, qui était dernier cri pour l'époque. Il y avait un petit bureau au-dessus de la salle de culte, avec. Tout était impeccable. Il y avait même un ordinateur, parce que c'était dans les années 80, les ordinateurs. Personne n'avait pas, il n'y avait aucun pasteur qui avait un ordinateur à l'époque, vous voyez. On ne pouvait pas faire grand-chose avec, mais enfin, il y avait l'ordinateur, il y avait la photocopieuse, et puis j'ai regardé tout avec des grands yeux, et il m'a dit, Jean-Hugues, c'est nous les Américains, vous voyez. Mais c'est une atmosphère, la foi. C'est une atmosphère. Vous comprenez ça. La foi, c'est une atmosphère. Et c'est vous qui créez l'atmosphère autour de vous avec vos paroles, avec votre vie de prière, avec les bénédictions qui sortent de votre bouche. D'accord? Avec le fait qu'on s'entretient mutuellement, on s'encourage mutuellement, on s'enseigne mutuellement. Vous suivez? Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Savoir qu'on est réconcilié avec Dieu. D'accord ? On n'est pas encore en train de se dire, Seigneur, est-ce que vraiment tu m'as sauvé ? Est-ce que par hasard, je n'aurais pas fait un péché inconnu ? Et puis en train de s'arracher les cheveux là. Si Dieu veut te montrer quelque chose, il va le faire. Vous suivez ? Rien n'empêche que tu aies des temps de repentance dans ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se repentir. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais à un moment donné, il faut avancer, quoi. Vous voyez ? Il faut vivre. On a eu accès à cette grâce. Est-ce que le salut est amputé de quelque chose ? Ou est-ce qu'il est complet ? Il est complet. Alléluia. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on verra le verset 12 où il compare Adam avec Jésus-Christ. Mais c'est plus qu'une comparaison. En fait, Jésus est incomparable, vous voyez ? Mais il y a quand même une sorte d'élément de comparaison avec en plus la surabondance qu'on a en Jésus-Christ et qu'on ne pouvait pas avoir en Adam. D'accord ? Et on va comprendre encore plus la semaine prochaine la grandeur du salut qui nous a été accordé. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on vit dans un petit salut par rapport à la grandeur du salut qui nous a été donné. On vit dans un petit salut. Vous suivez ? C'est comme si vous entriez dans une de ces limousines, vous savez, pour les mariages, là. D'accord ? Et puis que vous vous mettiez dans le coffre en disant, voilà, je suis sauvé. Et puis la limousine, elle traverse la ville, ils vont boire du champagne et tout ça, et vous êtes dans votre coffre, pas de champagne, pas de petit four, rien, d'accord ? Pas de banquette, vous êtes dans votre coffre, et vous dites, moi, je suis sauvé. Eh bien, continue dans le coffre si tu veux. Je sais qu'on arrivera tous à la même destination, mais franchement, si tu pouvais profiter un peu plus, entrer un peu plus dans l'abondance de ce salut, tu serais d'autant plus heureux et d'autant plus efficace pour le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.